Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec Mario Barre
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Luc pour le 22e dimanche de la liturgie catholique romaine.
Alors que Jésus est venu dans le logis d'un des chefs des pharisiens, un jour de Shabbat, pour y prendre un repas, eux sont en train de l'épier. Et voici qu'un homme atteint d'hydropisie se tient devant lui. Jésus répond aux spécialistes de la Torah et aux pharisiens. Il dit
« Le jour du Shabbat, est-il permis ou non de soigner ?»
Ceux-ci demeurent silencieux. Jésus, saisissant le malade, le guérit et le renvoie, et il leur dit «
Lequel d'entre vous, si un fils ou un bœuf tombe dans un puits, le jour du Shabbat, ne l'en retire aussitôt ? »
Ils ne sont pas capables de répliquer à cela. Il dit une parabole aux invités, ayant remarqué comment ils choisissent les premières banquettes, il leur dit
« Lorsque tu es invité par quelqu'un à des noces, ne va pas t'asseoir sur la première banquette, de peur qu'il ait invité quelqu'un de plus honorable que toi. Celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui la place » et alors tu te mettras dans la honte à prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, de telle sorte que, lorsque celui qui t'a invité viendra te dire « Ami, monte plus haut », ce sera alors pour toi une gloire devant tous ceux qui sont attablés avec toi. Car celui qui s'élève lui-même sera humilié, et celui qui s'humilie lui-même sera élevé. »
Il dit aussi à celui qui l'a invité.
« Lorsque tu fais un déjeuner ou un dîner, n'invite ni tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'à leur tour ils t'invitent. Cela te serait rendu. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite pauvres, estropiés, boiteux, aveugles. Heureux seras-tu, car ils n'ont pas de quoi te rendre. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. »
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour Mario.
Bonjour Georges. Georges, les propos de table qui forment la deuxième partie de ce texte peuvent ressembler à un manuel de savoir-vivre. Est-ce que c'était le véritable but de Jésus ou est-ce que nous avons ici une leçon plus profonde?
Oui, en effet, bien des exégètes donnent à ces textes le titre de propos de table. Il y a d'abord le récit d'une guérison lors d'un repas de Shabbat et deux sentences aux allures de règles de sagesse, puis cette parabole du grand dîner. À première vue, il n'y a pas de lien d'ailleurs entre la guérison et les trois autres passages, sinon le cadre du repas.
Mais de quel repas s'agit-il ?
Les jours ordinaires, les Juifs prenaient deux repas, l'un dans la matinée et l'autre en fin d'après-midi. Par contre, le jour du Shabbat comportait trois repas, dont celui de midi qui faisait suite à l'office de la synagogue. On aimait aussi recevoir la veille du Shabbat. On devait préparer la nourriture d'ailleurs durant la journée, car dès la tombée du soleil, le repos du Shabbat commence. La confrérie des pharisiens organisait aussi en cette veille de Shabbat des repas qui comportaient une sorte de rituel liturgique. Le rite était emprunté au repas de la Pâque, ce repas que chaque famille juive célèbre une fois l'an. Après la bénédiction du pain, on prie, on récite des psaumes, on écoute des textes bibliques. Souvent, le président du repas commente les textes pour en faire une application à la vie présente et la discussion s'engage entre tous pour appliquer le texte biblique à la vie quotidienne. En se laissant inviter à la table d'un pharisien, Jésus sait bien qu'il s'expose à être observé, voire même épié. C'est que Jésus transgresse souvent les règlements. Ainsi, lors d'un autre repas chez des pharisiens, il n'a pas fait les ablutions d'usage, se laver les mains jusqu'au coude. Une autre fois, il s'est laissé oindre les pieds de parfum par une prostituée à qui il a pardonné les péchés, au grand scandale des convives. Quel est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? On sait aussi que Jésus se plaît à faire des guérisons le jour du Shabbat, ce qui est considéré par certains comme une transgression du repos obligatoire en ce jour. Le chef de la synagogue avait dit « Il y a 6 jours pour travailler, c'est donc ces jours-là qu'il faut vous faire guérir ». Jésus, au contraire, considère que le jour du Shabbat est un jour indiqué pour guérir, pour se faire délivrer par Dieu de tous les liens qui nous attachent et qui nous rendent prisonniers. Jésus a dit « Je vous demande s'il est permis un jour de Shabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ». En guérissant le jour du Shabbat, Jésus montre qu'il agit comme Dieu son Père, car le Créateur n'interrompt pas son action de création et de vie, puisque ce jour-là, le Shabbat, des enfants naissent, que le soleil brille, que la pluie tombe. Cette fois encore, Jésus va guérir, ce qui est pour lui un geste de recréation. Et aussi bien les spécialistes de la Torah que les pharisiens scrupuleux de l'observance des règles ne seront pas capables de lui répondre. Et cela sans doute va augmenter leur fureur et leur détermination à faire condamner Jésus.
Les scribes et les pharisiens étaient acharnés contre lui et ils s'employaient à lui arracher des réponses sur toutes sortes de sujets, en lui tendant des pièges pour surprendre ce qu'il dit.
N'oublions pas enfin que dans ce récit de Luc, nous sommes toujours sur le chemin de Jérusalem où dans quelque temps Jésus sera arrêté et condamné. Le repas se poursuit et Jésus va réagir sur le choix des invités et le choix des places.
Georges, parle-moi un peu du choix des places.
Alors, la société d'alors est très soucieuse du rang social. Dans ces repas de fête, on est assis ou allongé sur des coussins ou des banquettes. La place d'honneur est sur le premier coussin ou sur le coussin central. Comme à la synagogue, chacun va avoir une place déterminée selon son poste, sa fonction ou la notoriété de sa famille. Ce qui d'ailleurs se confond bien souvent avec l'argent qu'on possède. Chacun est donc évalué selon ses titres. On ne doit pas fréquenter les gens qui ne sont pas de sa classe. On n'invite pas à sa table des gens d'un rang trop inférieur au sien. Mais il est bon d'inviter des gens de rang plus élevé, car il peut être utile un jour ou l'autre d'avoir des amis bien placés. Voilà donc une vision qu'on pourrait qualifier de mondaine. Les livres bibliques d'ailleurs de sagesse conseillaient d'avoir une attitude contraire à celle de choisir le premier rang.
En face du roi, ne prends pas de grands airs. Ne te mets pas à la place des grands, car mieux vaut qu'on dise « monte ici » que d'être abaissé en présence du chef.
Cela est tiré du livre des Proverbes au chapitre 25. Quelques années après Jésus, un rabbin, donnera une règle de conduite d'ailleurs presque semblable.
Tiens-toi 2 ou 3 places en retrait de celle qui te revient, selon ton rang, et attends que l'on te dise « monte ». Ne commence pas par monter, car on pourrait te dire alors « descends ». Il est meilleur que l'on te dise « monte, monte » plutôt que « descends, descends ».
Mais Jésus va conclure avec une maxime qui élargit le champ de cette règle de sagesse. « Celui qui s'élève lui-même sera humilié, dit-il, et celui qui s'humilie lui-même sera élevé ». La leçon donnée quant au choix des places à table n'est donc là qu'un exemple pour parler de quelque chose de plus large. La leçon de Jésus concerne la façon d'envisager toute relation, que ce soit les relations humaines ou notre relation à Dieu. Que dit-il en effet ?
Si tu veux entrer en vraie relation avec l'autre, si tu veux établir une relation qui mène à une vraie fraternité, alors souviens-toi que tu ne dois pas t'élever toi-même.
Il ne s'agit pas de s'humilier au sens de se déprécier soi-même, de s'écraser devant l'autre. Cette attitude de mépris de soi ou de volonté de ramper pour se faire accepter, est une attitude morbide. Et cette attitude n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Écoutons ce qu'en dit Pierre-Yves Emery, un frère de la communauté de Thésée.
Si le christianisme se veut la religion des faibles, s'il fabrique des ratés, ne mérite-t-il pas les sarcasmes de Nietzsche, le mépris des hommes qui se veulent forts et se disent adultes ?
Une telle attitude, en effet, qui déprécie l'être humain, ne rend pas gloire au Créateur. Quel serait l'amour de ce Dieu qui nous créerait incapables, ratés, pour se glorifier ensuite de venir nous secourir. Alors comment s'explique l'attitude d'humilité prônée par Jésus? Eh bien, elle se définit par la nature même de l'amour. C'est que l'amour vrai demande de se tenir devant l'autre en état, en étant accueil de l'autre. On n'aime pas vraiment si l'on n'attend rien de l'autre. Une attente qui ne doit certes rien exiger, mais plutôt s'émerveiller de ce que l'autre peut et veut nous donner, et rendre grâce, pour cette gratuité du don de l'autre. La place la plus humble, d'une certaine façon, c'est la vraie place où l'amour peut jouer. Aimer, c'est d'abord se laisser aimer. Le besoin de dominer les autres traduit en fait une situation intérieure de faiblesse et d'insécurité, et cela nous ferme à ce que l'autre peut nous donner, peut nous partager. Cette humilité est la seule disposition qui soit capable d'établir des relations d'amour authentiques. Écoutez ce qu'en dit le cher père François Varillon dans son merveilleux petit livre « L'humilité de Dieu ».
L'amour est pauvreté, dépendance, humilité. L'aimant dit à l'aimé « Tu es ma joie ». C'est une affirmation de pauvreté. Sans toi, je suis pauvre de joie. Aimer, c'est vouloir être par l'autre et pour l'autre. Par l'autre, c'est l'accueil. Pour l'autre, c'est le don. Les deux aspects sont de pauvreté. On ne peut dire à la fois « Je t'aime et je veux être indépendant de toi ». Ceci annule cela. On ne peut regarder de haut quelqu'un à qui l'on dit « Je t'aime ».
En effet, ce regard de haut anéantirait l'amour, le réduirait à néant. On n'aime pas vraiment si l'on n'est pas humble. On ne peut rejoindre l'autre qu'en étant soi-même petit. Celui qui se croit fort et invulnérable ne peut véritablement aimer car il ne se laisse pas aimer. Lao Tzu, ce philosophe chinois qui a vécu 500 ans avant Jésus, a écrit un très beau texte.
Quand il vient au monde, l'être humain est souple et sans force. Une fois mort, le voilà dur et raide. Les roseaux et les grands arbres, quand ils sont encore petits, plient et sont fragiles. Quand ils meurent, ils sont devenus secs et cassants. C'est que force et dureté sont camarades de mort. Docilité et souplesse sont amis de la vie. La force, en définitive, n'a jamais rien conquis.
L'amour qui domine est un amour blessant, comme le dit très bien Stan Rougier. Et n'est-ce pas pour signifier cette humble petitesse de l'amour que Jésus est désigné comme l'agneau, c'est-à-dire comme l'humble et le petit, au milieu de ceux qui se croient des sages et des savants? Jésus dira d'ailleurs à ses envoyés qu'il les envoie comme des agneaux au milieu de loups. C'est ainsi, humblement, que Dieu, le maître de l'amour, nous aime. Il nous aime par grâce et sans condition. Ce « je t'aime » inconditionnel ne peut être dit en vérité que par Dieu. Le modèle de l'humble amour se trouve en Dieu lui-même. Dieu est humble parce qu'il est amour. Cette humilité de Dieu est une nécessité pour permettre à l'humain d'aimer Dieu librement. Si Dieu n'était pas humble, comment pourrions-nous l'aimer? Si Dieu se révélait à nous dans toute sa grandeur, il s'imposerait à nous avec une telle force que nous serions comme obligés de l'aimer. Il nous écraserait et nous perdrions alors notre liberté et la gratuité de notre amour pour lui. De cet amour à la manière de Dieu, Jésus est l'image la plus vraie, la réalisation la plus parfaite, comme le dit très bien Paul aux chrétiens de Philippe.
Comportez-vous entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur.
Jésus dira que pour aimer ainsi, il faut que nous nous fassions petits comme un enfant qui n'accueille pas le règne de Dieu, c'est-à-dire le règne de l'amour, en petit enfant, n'y entrera pas. Et l'attitude qui s'oppose le plus à cette conversion du cœur à l'amour, c'est le sentiment d'être supérieur aux autres parce que soit on est correct, on est fidèle aux règlements, aux préceptes de la Torah, comme ce pharisien que Jésus met en scène.
« Mon Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des humains, qui sont rapaces, injustes, adultères. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que j'acquiers. »
Et d'ailleurs, à cette prière, la même conclusion est donnée par Jésus. « Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. »
Georges, le choix des invités, quel est-il ?
Alors la deuxième leçon de sagesse que Jésus donne est en effet celle du choix des invités. Et son langage est une fois de plus incisif et percutant. N'invite pas tes amis, tes frères, tes parents. Alors que faut-il comprendre ? Il ne s'agit certainement pas de devenir ingrat envers ceux qui nous aiment et qui nous aident, comme nos parents et nos amis. Mais Jésus veut nous permettre de vérifier concrètement si l'amour que nous vivons et que nous avons même pour nos parents et nos amis est un amour vrai et donc un amour gratuit. Dieu est le modèle de la gratuité de l'amour. En effet, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables, mais c'est par son amour qu'il va nous rendre aimables. Notre prochain ne doit pas être aimé par nous. Parce qu'il nous semble beau, grand, fort, il doit être aimé quel que soit ce qui le rend aimable. Il doit être aimé gratuitement, inconditionnellement. Inviter des gens qui nous aiment et qui nous invitent à leur tour est une chose facile et qui peut insensiblement nous faire perdre la valeur de la gratuité. Nos parents, comme les riches voisins, sont habituellement ceux qui nous rendront notre invitation. Et Jésus a dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle gratitude y a-t-il pour vous ?» Alors au contraire, il faut inviter des pauvres. Car les estropiés, les boiteux, les aveugles sont des exemples de ces pauvres qui ne pourront pas rendre l'invitation, car ils n'ont rien à rendre. Dans un texte en araméen, la sagesse d'Abicar, on trouve un enseignement semblable.
« Reçois chez toi celui qui est au-dessus de toi, et celui qui est moins riche que toi. » S'il s'en va et ne te rend pas, Dieu te rendra.
Nous avons d'ailleurs dans nos vieux dictons une sagesse bien proche de celle-là, une sagesse qui vient d'ailleurs du livre des Proverbes, qui donne aux pauvres prêt à Dieu, et c'est la vie qui le lui rendra. Nous retrouvons la grande préoccupation de Jésus, qui est la gratuité des liens humains. Pour lui, cette gratuité est la condition incontournable de leur vérité. Donc l'assemblée des disciples de Jésus, ceux qui croient en Dieu qui est amour, doivent vivre cette vérité des relations humaines. Or, en Israël, on s'appuyait sur un passage du livre de Samuel pour interdire l'entrée de la maison de Dieu précisément aux aveugles, aux boiteux et aux estropiés. Aveugles et boiteux n'entreront pas au temple, dit le livre de Samuel au chapitre 5. Et le Lévitique interdisait aussi le sacerdoce à ses handicapés. Du temps de Jésus, cette règle était appliquée d'ailleurs chez les Esséniens de Qumran.
Que nulle personne frappée de l'une quelconque des impuretés humaines n'entre dans l'assemblée de Dieu.
Sans doute, les Esséniens avaient-ils étendu à tous les membres de leur groupe la règle valant pour les prêtres, parce qu'on considérait l'assemblée tout entière comme étant sacerdotale. De semblables lois valaient aussi autrefois pour l'ordination des prêtres catholiques. Certains handicaps physiques, comme l'épilepsie, interdisaient l'accès à la prêtrise. Jésus veut donc lever toutes ces barrières qui rejettent en dehors ceux qui sont considérés comme pécheurs à cause de leur maladie. Il est venu, lui, au contraire, pour les pécheurs, afin de leur redonner leur place dans la maison de Dieu. On voit alors que la guérison de l'hydropique dans un repas de Shabbat prend ici tout son sens. Les handicapés comme les pécheurs sont appelés à vivre le repas du Seigneur. Tout être humain, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit son rang, quelle que soit son instruction, et même quel que soit son péché, est appelé à être un fils, une fille de Dieu. Le fondateur de la jeunesse ouvrière chrétienne, Joseph Cardaigne, disait « Un jeune travailleur est un fils de Dieu ». Et un ami traduisait cela en disant « Nous sommes des sans-dessein souvent, mais des fils de Dieu toujours. » Eh bien, c'est pour signifier cela que Jésus mange avec des pécheurs publics, et notamment avec les publicains, au risque de se faire traiter de glouton et d'ivrogne, et qu'il se laisse oindre les pieds par le parfum d'une prostituée, au risque de scandaliser les bien-pensants.
Quelle question cela nous pose-t-il, à nous, disciples de Jésus des années 2000 ?
Oui, en effet, qui invitons-nous à nos repas ? Nos parents ? Nos amis ? Car nous savons qu'ils nous rendront le souper qu'on leur a offert ? et non pas des voisins pauvres qui ne pourront peut-être pas nous inviter? Est-ce que nous invitons des connaissances respectables qui nous honorent, mais pas ce compagnon de travail qui manque un peu d'éducation? Des gens qui sont véritablement intégrés, reconnus dans notre société, les gens productifs, instruits, tous ceux qui réussissent, même s'ils ont, pour réussir, exploité les autres sans trop de scrupules. Quelle place notre société réserve-t-elle aux gens qui n'ont même pas une troisième année d'école? Une société qui accepte trop facilement d'assister financièrement les démunis, plutôt que de s'efforcer de donner du travail à tous, est-ce que c'est une société vraiment chrétienne? Rappelons-nous la terrible vérité que Félix Leclerc énonçait, la meilleure façon de tuer un être humain, c'est de le payer à ne rien faire. La plus grande pauvreté, la vraie misère, n'est-elle pas de ne plus se sentir utile, reconnu, comme le dit si bien ce beau texte de Maurice Zendel?
Une femme pauvre m'a dit ces mots que j'ai retenus. La plus grande douleur des pauvres, c'est que personne n'a besoin de leur amitié. On vient chez nous, on s'assoit sur le coin d'une chaise, on dépose de quoi poursuivre notre misère quelques jours, et puis on s'en va tranquillement à la montagne ou à la mer. Mais personne ne croit que, nous les pauvres, on a quelque chose à donner, que nous aussi, nous éprouvons le besoin de donner. Personne ne croit à notre dignité, et c'est cela notre plus grande blessure.
Oui, qui a sa place dans nos assemblées eucharistiques qui sont le repas du Seigneur? Les divorcés remariés? Les assistés sociaux? Les homosexuels? Et une place telle qu'ils se sentent vraiment accueillis, respectés, aimés? Nos assemblées sont-elles vraiment sans protocole et sans rang d'honneur pour les plus riches? La question d'ailleurs s'était posée très vite dans les communautés chrétiennes. Écoutons la lettre de Jacques et ce qu'il dit déjà dès les premières années du christianisme.
Mes frères, s'il entre dans votre assemblée un homme aux bagues d'or magnifiquement vêtu, s'il entre aussi un pauvre vêtu de haillons, si vous vous intéressez à l'homme qui porte des habits magnifiques et lui dites « Toi, assieds-toi à cette bonne place », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi debout » ou « Assieds-toi là-bas, au pied de mon escabeau », n'avez-vous pas fait une discrimination?
N'y a-t-il pas un fossé encore aujourd'hui entre les chrétiens et les gens les plus pauvres de notre société? Que pensent de notre Église les gens très pauvres? Est-ce qu'ils s'y sentent à l'aise ou un peu étrangers? Faire ainsi une discrimination entre les fils et les filles de Dieu, c'est non seulement maltraiter son prochain, mais c'est aussi, nous dit Jésus, nous priver nous-mêmes du vrai bonheur. Le bonheur se trouve dans la gratuité, car il est dans le véritable amour, dans la vraie fraternité.
Apprends à donner sans compter. Heureux seras-tu, car cela te sera rendu à la résurrection des justes.
Et puisqu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, ta joie sera décuplée lorsque tu permettras à l'autre de te donner. Citons encore Pierre-Yves Emery.
Renoncez non pas aux besoins de grandeur, mais à l'illusion de le combler soi-même. C'est se reconnaître en même temps fait pour Dieu, en ce sens que Dieu seul peut nous combler, et fait pour les autres, en ce sens que Dieu nous comble personnellement à l'intérieur d'une communauté fraternelle. Et c'est ce que Jésus appelle s'abaisser.
On le voit, ce récit est loin d'être de simples propos de table, des conversations de salon. Il s'agit ici de la vraie mesure de l'amour, de la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Il s'agit du rôle de l'Église, de sa communauté, de ce qu'elle doit être pour être signifiante de l'amour de Dieu. Il s'agit finalement de la mesure de notre bonheur et de notre bonheur éternel. La joie que Dieu veut nous donner sera toujours au-delà de tout ce que nous pourrons mériter, au-delà de tout ce que nous pourrons espérer. La relation que nous vivons avec notre prochain sera la mesure de notre joie éternelle. Si nous sommes habitués à tout calculer de ce que nous donnons et de ce que nous recevons, notre cœur ne sera pas habitué à vivre la gratuité de Dieu. Il ne pourra plus se laisser éclater aux dimensions infinies de l'amour divin. Le repas a une dimension sacrée. Il doit être un temps fort de cette communion que nous sommes appelés à vivre avec Dieu et entre nous. Le repas du Seigneur, notre Eucharistie, doit en être le signe chaque dimanche, et il le sera si nous y vivons le conseil de Paul aux chrétiens de la communauté de Philippe.
Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. Avec humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous nous trouverez aussi sur Internet les www.relaismontroyal.com, Relais Mont-Royal sans tiret et en un seul mot.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.